Vous écoutez la web radio du HUF en direct du nouveau Tel Avignon Centre.
Osmose.
Osmose.
Osmose Radio.
La web radio du HUF.
Les thèmes du féminisme sont assez présents dans la programmation du Festival HUF 2021. On ne saurait s'en plaindre parce que ce sont des thèmes qui nous touchent. Et moi-même, si je suis un bonhomme, ce sont des thèmes qui me touchent, ne serait-ce que par ricochet, puisque les femmes représentent beaucoup dans ma vie. Et apparemment, je ne suis pas le seul, puisque c'est aussi votre cas, Fanny Cabon. Bonjour.
Oui, bonjour.
Je n'écorche pas votre nom, au moins.
Non.
Ok. Alors, vous êtes aujourd'hui ici sur le plateau d'Osmose pour parler d'un spectacle qui vous tient à cœur, que vous avez déjà représenté, mais on y reviendra. C'est jusqu'au 31 juillet à 13h25 au spectacle, au théâtre, pardon, Les Trois Soleils, et c'est le spectacle Gardienne, Gardienne au pluriel. Alors, un spectacle, disais-je, dont ce n'est pas la première représentation au Festival HUF à Avignon, puisque vous l'avez déjà représenté il y a quelques années, et ça avait été pour vous un joli succès.
Oui, 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 j'ai eu de la chance. Je l'ai créé en 2018 et j'ai été élue meilleure seule en scène par Avignon à l'unisson. Voilà, et c'est vrai que c'est un spectacle qui a tout de suite bien fonctionné et où il y a un très, très beau bouche à oreille. Voilà.
Eh bien, tant mieux. Et par conséquent, bon, ben, en 2019, en tout cas en 2020, comme tout le monde, vous avez un petit peu zappé. Et vous revenez cette année au théâtre Les Trois Soleils. Alors, c'est assez facile à trouver, c'est rue Buffon, pas très loin de la rue Thiers, juste à côté du village du HUF, pour ceux qui seraient un petit peu perdus sur cette carte d'Avignon, où on trouve d'innombrables théâtres qui éclosent comme les pâquerettes au soleil d'été. Et par conséquent, dans ces théâtres, il y a notamment votre spectacle, Gardienne. Déjà, donc, rien que le nom intrigue, gardienne au pluriel, gardienne, mais de quoi ?
Alors, ce n'est pas gardienne de prison, forcément, c'est les gardiennes de vie, les gardiennes de secrets, les gardiennes de la famille, les gardiennes d'une unité. Voilà,
les gardiennes du foyer, peut-être aussi, comme on appelait les vestales au temps de la Grèce antique.
Oui, c'est ça. Moi, je suis d'une famille de bonnes femmes. Hein. Ma grand-mère, c'était une fratrie de 7, dont 6 filles. Et j'ai été bercée par toutes leurs histoires de bonnes femmes, par leur joie de vivre et puis aussi par toutes les épreuves qu'elles ont pu affronter durant leur vie.
Alors, dans le terme bonne femme, tel que vous le dites, je ne ressens rien de péjoratif. Et moi-même, quand je dis, je fais référence aux vestales de l'Antiquité, évidemment, c'est pas pour ramener les femmes au foyer. Hein. On n'en est plus là, enfin, j'espère. Mais dans ce spectacle, Fanny Cabon, vous avez utilisé ce terme qui, à quelques égards, est tout de même ambigu, gardienne. Je fais référence aux gardiennes du temple, mais pas que, comme vous venez de le rappeler. Alors, il y a un autre aspect vraiment qui m'a beaucoup intrigué dans ce spectacle, puisqu'on est d'abord. Ce qui suscite la curiosité, ce sont d'abord les aspects matériels, les aspects visuels, et notamment dans le visuel de votre spectacle, c'est une très jolie illustration où on voit une illustration de la féminité telle qu'on se la représente depuis au moins la préhistoire, à savoir une femme avec un ventre rond. Mais dans ce ventre rond, on trouve une pelote de laine avec des aiguilles. Alors là, je me dis, ah non, c'est encore un truc pour ramener les femmes au foyer. Et puis après, j'ai vu quelques gouttes de sang qui perlaient au coin des aiguilles en question. Et là, forcément, ça soulève différents thèmes en une seule image, différents thèmes que vous faites fort d'illustrer par conséquent.
Mais oui, la pelote de laine, c'est aussi la layette, c'est la maternité, c'est le fil de la vie. Voilà, c'est un symbole qui peut être fort pour plusieurs choses. Quant aux aiguilles à tricoter, malheureusement, effectivement, elles symbolisent toute l'avant-loi veille, où les femmes étaient obligées de se débrouiller bon an mal an comme elles le pouvaient pour avorter, ne serait-ce que pour pouvoir élever correctement leurs enfants. Enfin, c'est vrai que quand j'entends des personnes qui disent bon, elles avaient qu'à pas écarter les cuisses. Enfin, c'est tellement.
Des fois, on leur a pas demandé leur avis. Hein, on s'est insinué de force.
Hein. Exactement. C'est-à-dire, et c'est toujours le cas actuellement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une violence gynécologique qui est terrible, même pour les femmes qui avortent actuellement. Et on a la chance d'être dans un pays où c'est autorisé. Mais les médecins ne demandent pas d'où vient cette grossesse. Ils ne demandent pas si ça vient d'un inceste. Ils ne demandent pas si ça vient d'un viol. Ils ne demandent pas si cette femme n'a pas déjà 6, 7, 8 enfants et ne peut plus les assumer. C'est toujours la faute de la femme. Hein. Et c'est vrai que c'est important de redonner, comme disait effectivement Simone Veil, c'est de croire en l'intelligence de ces femmes. C'est-à-dire qu'aucune femme ne fait cet acte par plaisir. Donc pour moi, la question d'être pour ou contre l'avortement, c'est pas une question qui est posée correctement. Personne ne peut être pour. Et encore une fois, on ne le fait pas de gaieté de cœur. Donc c'est simplement se poser la question, mais pourquoi? Et dans tous les pays où c'est interdit, les femmes pratiquent l'avortement. Aujourd'hui encore, il y a une femme qui meurt toutes les 9 minutes d'avortements illégaux.
Dans le monde.
Dans le monde. Donc la question n'est pas de pour ou contre, mais de comment le faire pour que ça se passe le mieux possible, accompagner les femmes pour qu'elles puissent garder leurs enfants quand elles le désirent et leur faire confiance quand elles ne veulent pas le garder, c'est qu'elles ne peuvent pas. Voilà, je pense que c'est important. Et dans ma famille, j'ai eu des faiseuses d'anges, j'ai eu des mamans extraordinaires et l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs.
Peut-être qu'une de vos aïeules a signé le manifeste des 343.
C'était des femmes célèbres, donc non, les miennes.
Mais elles l'auraient signé si on leur avait demandé, j'en suis sûr. Quoi qu'il en soit, vous êtes l'autrice de ce texte, Fanny Cabon, donc gardienne, que vous avez déjà représentée à Avignon il y a 3 ans. Et vous incarnez, vous avez plusieurs casquettes, vous êtes interprète de ce seul en scène, vous êtes autrice et vous avez fait appel à un metteur en scène, Bruno de Saint-Riquier, pour vous aider dans ce travail. Alors je me dis, quitte à avoir 2 casquettes, pourquoi ne pas en arborer 3, même si c'est un travail considérable, et pourquoi ne pas avoir fait la mise en scène vous-même?
Bah écoutez, d'abord parce que Bruno de Saint-Riquier est un metteur en scène de talent et un homme voilà, qui est un grand humaniste. Et c'était un plaisir de travailler avec lui et de me faire accompagner pour qu'il était dans un respect de ces femmes, de ces témoignages. Tout était en douceur avec des symboliques qui sont très belles. Il a réussi à en faire un spectacle très, très beau. Esthétiquement parlant, il a fait un travail aussi musical assez extraordinaire. Et franchement, je me serais privée d'un grand talent si je n'avais pas fait appel à lui.
Et puis, c'est toujours utile d'avoir un point de vue extérieur sur
des sujets. Le point de vue d'un homme aussi.
Voilà.
On a besoin de vous.
Je ne sais pas quoi répondre de pertinent, donc je vais passer directement à la question suivante, hein, mais vous m'envoyez flatter. Toujours est-il que oui, avoir un point de vue externe, ça aide un petit peu aussi à mieux se comprendre soi, et c'est aussi pour ça qu'à titre personnel, les thématiques du féminisme m'intéressent, parce que ça permet de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, et l'histoire telle qu'elle a toujours été écrite, non seulement par les puissants en particulier, mais par les hommes en règle générale. C'est intéressant de revenir un petit peu sur l'histoire contemporaine du point de vue des femmes, et on a eu l'occasion de le faire parfois, quand on pense aux grandes dames de la littérature, George Sand, pour la peinture, Elisabeth Vigée-Lebrun, etc., par rapport à des grandes dames qui ont précédé, ou Louise Michel pour la Commune, par exemple, dont on parlait beaucoup cette année. Mais pour les femmes du commun, c'est plus délicat, c'est plus difficile. Et c'est uniquement depuis les années 30-40 que les historiens commencent à chercher des témoignages de ces personnes-là, de ces personnes qui n'ont pas marqué l'histoire de leur nom, mais qui pourtant ont joué des rôles considérables malgré tout. Et vous-même, eh bien, c'est dans ce prisme peu ou prou d'analyse, que, pas forcément d'analyse, mais en tout cas dans cette perspective, que vous vous situez en explorant l'histoire d'une lignée familiale à partir des années 1920. Et donc, c'est différentes mères, cousines, femmes, enfants, etc., qui se transmettent leurs expériences, en quelque sorte, tout au long de votre spectacle. Est-ce que je résume correctement ?
Oui, effectivement, c'est une pièce que j'ai écrite. Ça part de mon arrière-grand-mère en 1920 jusqu'à ma fille aujourd'hui. Pour moi, c'était très important de leur rendre la parole, de leur rendre leurs mots sur leurs mots MAUX. Parce qu'on a souvent parlé au nom de ces femmes, mais on leur a peu donné la parole. Et c'est vrai qu'avoir le plaisir d'écouter ces femmes, elles ont un parler juste et qui correspond à une vraie réalité. Voilà, c'est pas intellectualisé, c'est pas... On est dans le ventre là aussi, hein, on est dans l'émotion. Et c'est vrai que c'est un spectacle qui touche énormément parce que chacun y retrouve les mots vrais de ses grands-mères, de ses mères, de soi-même. Et c'est vrai que j'en suis à plus de 150 représentations et je n'ai pas eu une seule représentation où des personnes à la fin du spectacle ne viennent pas me voir avec les larmes aux yeux parce qu'on est dans un langage universel. Voilà.
Ben, la généalogie n'est pas le thème de votre spectacle. Néanmoins, en parlant d'une lignée familiale, ça nous renvoie un peu, par votre cas particulier, à quelque chose d'universel. Mais en tout cas,
oui,
c'est comme ça que je le ressens.
Et puis, c'était important pour moi que, justement, qu'il n'y ait qu'une comédienne, qu'une femme. Je joue une dizaine de personnages, représente toutes les femmes. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a la lignée, effectivement, c'est qu'à partir du moment où, que ça soit dans le non-dit, dans le secret familial ou pas, il y a des choses comme ça qui se transmettent et des conséquences sur les générations d'après par rapport à un vécu qui a été là. Et c'était important pour moi de représenter ça. Nous sommes faites de ce qu'ont vécu nos aïeuls, nos grands-mères, nos mères... et nos pères pour d'autres cas, hein, mais là, sur le sujet que je traite, c'est surtout par rapport à ça. Et c'est primordial, je pense que quand on a eu une maman faiseuse d'ange qui risquait de mourir régulièrement...
Ou d'être arrêtée, avoir raison
d'être
avec la justice. D'être
arrêtée et de se retrouver en prison, eh bien, c'est pas très étonnant qu'après on n'arrive pas à enfanter soi-même et à avoir des enfants et qu'on ait à prendre des traitements hormonaux pour avoir des enfants. Il y a un vrai questionnement par rapport à ça. C'est vrai qu'on est des générations où il est difficile pour certaines d'avoir des enfants. Et est-ce que ce n'est pas aussi dû à ce qu'ont vécu nos grands-mères, tout ça? Alors bon, il y a aussi d'autres choses. Hein. Il y a les pesticides, il y a Monsanto, mais enfin, pas que. Je crois aussi qu'on est fait d'une multitude de causes et effets aussi.
Pour aller dans le sens de ce que vous disiez, il me semble, si j'ai bien compris, que les pesticides dont on souffre, qui font baisser le taux de fertilité des générations actuelles, en fait, visent surtout les hommes. C'est surtout les hommes qui sont moins fertiles, où vous savez, du fait d'avoir mangé autant de pesticides, etc. L'organisme des femmes, d'après les scientifiques, en tout cas d'après ce que j'en ai lu, n'est pas affecté, ou en tout cas pas du tout dans les mêmes proportions. Mais je ferme cette parenthèse.
Mais donc, ces femmes, il y a quand même beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Donc, si ça ne vient pas de là, ça vient aussi d'autres choses. Et je pense que le psychisme
c'est pas
très,
pour infirmer ce que
important.
Pour infirmer
oui,
ce que vous vouliez dire. Attention. Hein.
Mais par exemple, j'ai une femme qui est venue me voir et elle était bouleversée et elle m'a dit, vous savez, je n'arrive pas à avoir des enfants depuis plusieurs années. J'ai enfin compris pourquoi et je crois que je vais avoir une discussion avec ma maman. On entend ça, c'est très fort, quoi.
Et alors, il y a une thèse qui n'a pas encore été prouvée scientifiquement, mais qui ouvre des champs de réflexion assez considérables et qui en soi est fort intéressante, même s'il y a peut-être des parts d'ombre ou de fantasmes dessus. C'est la thèse des mémoires traumatiques qui traverseraient les générations et donc des traumatismes qu'auraient vécu nos aïeux pourraient aussi avoir du fait de la transmission, mais des non-dits dans l'histoire familiale ou pour certaines interprétations. Par la mémoire génétique qu'il y aurait dans notre ADN, je laisse à chacun la responsabilité de considérer cette éventualité ou pas, et bien toujours il y aurait des mémoires traumatiques qui pourraient transmettre des souvenirs de traumatisme d'une génération à l'autre, des générations d'ailleurs qui ne se parlent pas forcément. Alors on ne va pas aller jusqu'à Sylvester Stallone qui est persuadé, puisqu'il a mal au cou, qu'il descend d'un aristocrate français qui a été guillotiné en 1793, hein. Là ça va un petit peu loin pour moi, mais pour autant c'est une idée intéressante, et même si ce n'est pas le sujet de ce que vous disiez, c'est moi, je ressens aussi un petit peu un élan comme ça.
Ouais, moi, je suis convaincue de ça. Et des fois, il faut casser des nœuds familiaux. Il faut essayer justement de faire avancer les choses. Moi, j'espère avoir cassé ce nœud familial et que ma fille aura un petit sac à dos un petit peu moins lourd à porter.
C'est un nœud gordien, si je peux me permettre. Et le casser, ce serait difficile, mais bon, on peut y donner un coup de glaive, comme Alexandre, hein, n'est-ce pas? Et par conséquent, je vais vous faire une confidence. Quand j'étais à l'université, pour donner un exemple concret par rapport aux autres exemples concrets que vous citez dans votre spectacle, mais celui-là, vous n'y avez pas forcément pensé. Quand j'étais à l'université d'histoire, j'avais une professeure d'histoire contemporaine qui s'appelle Françoise Thébault, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire des femmes au moment de l'occupation allemande en France. Et elle interviewait énormément de femmes pour avoir leur témoignage de résistante, notamment. Elle a interviewé beaucoup d'hommes aussi. Mais en fait, elle s'est aperçue que quand des femmes situaient des événements dans le temps, Elle disait pas 1940, février 41, décembre. Non, non, non. Elle disait alors là, j'allais accoucher de mon troisième. Alors là, j'étais enceinte de mon petit dernier. C'était toujours des repères temporels liés à leurs accouchements, à leurs enfantements, à leurs allaitements, etc. Pour des hommes, c'était alors à l'époque, je bossais dans telle boîte et puis après, j'ai démissionné ou alors je me suis fait virer de telle usine. Enfin, vous voyez, les repères temporels, c'était très, très différent. Ça veut pas dire que c'était, il y en a qui étaient bons ou mauvais, c'est pas la question, mais c'est juste que la perception du temps et des événements étaient extrêmement différentes par rapport à une histoire qui est celle du corps.
Et elle se fait par rapport à ce qui nous marque aussi. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et les hommes et les femmes, on n'a pas les mêmes choses qui nous marquent, forcément.
Voilà, donc petit aparté, je ferme cette parenthèse. Il y a un truc qui m'intrigue par contre dans votre choix, puisque c'est un choix d'autrice, eh bien, c'est que vous faites démarrer cette histoire à partir de 1920. Mais 1920, l'histoire des femmes avait déjà pris un tournant entre guillemets positif, parce qu'après la Première Guerre mondiale, où on a eu besoin qu'elles aillent bosser dans les usines, elles avaient déjà pris ce que d'aucuns appelleraient des libertés, moi ce que j'aurais plutôt tendance à considérer comme des nécessités, c'est-à-dire qu'elles avaient raccourci leurs jupes pour pouvoir être plus mobiles quand elles travaillent, elles avaient raccourci leurs cheveux pour des raisons de sécurité dans les usines, où si une mèche de cheveux est attrapée par une machine, bien c'est toute la tête qui y passe, et par conséquent, ça avait énormément choqué les mentalités de l'époque. Ce qui n'était pas forcément... Les femmes n'avaient pas toutes ces libertés-là avant 1914. Donc, oui, je me dis...
On leur a donné par nécessité, hein, pas par choix. Et puis,
elles les
même,
ont
on
prises.
Les a...
La liberté, on les prend, on ne nous les donne pas.
Elles les ont remises quand même au foyer juste après, hein, quand même.
Mais je suis d'accord avec vous. Mais du coup, c'est bien un choix que vous avez fait de faire démarrer les choses en 1920. Alors certes, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est par rapport à votre histoire familiale. Ouais. Mais cette histoire familiale, vous auriez pu la creuser peut-être même avant la guerre. Je ne dis pas ça pour vous mettre en porte-à-faux. J'essaie de comprendre.
Alors, encore une fois, ce qui comptait pour moi, c'était vraiment rendre les mots. Moi, je me suis vraiment inspirée des témoignages que j'ai eus de mes grand-tantes. Certaines sont encore en vie, ont plus de 90 ans. Mmh. Et c'est vrai qu'après, ça allait être une recherche plus intellectuelle et plus basée sur des livres. Mais je n'avais plus de traces orales. De cette histoire. Or, en tant que comédienne, pour moi, un texte, c'est une partition musicale, mais pour qu'elle soit le plus juste possible, il faut qu'elle soit le plus proche, encore une fois, du langage vrai. Et donc là, j'avais les langages de ces femmes.
Qui sont plus parlantes que des archives d'état civil ou des vieilles photos, non, si je vous suis bien.
Pour moi, oui. En tout cas, dans le travail émotionnel de comédienne, pour arriver à quelque chose de juste... C'était nécessaire d'avoir ces mots-là. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que j'ai une de mes tantines qui est encore en vie et des fois, je vais la voir et elle me parle de son passé et j'entends des phrases de mon texte, quoi. Et ça me fait toujours drôle. C'est pas elle qui connaît par cœur mon texte parce qu'elle l'a pas vu, mais c'est en fait que sont vraiment ces mots, quoi, que j'ai pu retranscrire. Et ça me touche à chaque fois très fort. Et je crois que c'est ça qui fait que ce spectacle touche particulièrement. C'est que on est dans un langage du quotidien, un langage vrai. Voilà.
Et justement, c'était ma question finale, mais à l'inverse, ces personnes de votre famille dont vous vous êtes inspiré pour écrire ce texte, qu'est-ce qu'elles ont pensé du spectacle, elles, quand elles ont l'occasion de le voir?
Alors, la plupart n'ont pas pu le voir, hein, d'abord parce que certaines sont décédées, d'autres habitent très loin.
Votre fille, par exemple, dont vous parlez aussi.
Alors, ma fille, bien sûr, a vu le spectacle. Ma maman a vu le spectacle. Non, il y en a certaines qui l'ont vu, bien sûr. Elles ont toutes été effectivement très, très, très touchées. Très touchées parce que, voilà, c'est des choses qu'elles ont entendues. Mais à la limite, je n'étais pas étonnée de ça. Ce qui m'étonne, moi, c'est les gens, les spectateurs qui entendent leur femme de leur famille. Alors que, a priori, je ne les connais pas. Et je me souviens d'un vieux monsieur qui était venu me voir à la fin du spectacle. Il avait 80 ans, il pleurait. Et il m'a pris les mains et il m'a dit, vous savez, ma maman, ça a été 5 garçons. Elle ne pouvait pas, elle, parler de tout ça. Et quand elle est morte, j'ai trouvé 30 pages qu'elle avait écrites. Et c'était sa vie et c'était votre pièce. Merci de lui avoir donné la parole. Et voilà, c'est des moments comme ça où je me dis que je suis à ma place et que je suis utile. Et que cette pièce que j'ai écrite en hommage et en amour de toutes ces femmes, de leur résilience, de leur courage, de leur joie de vivre, parce qu'elles se plaignaient jamais. Il n'y a pas de pathos. Il n'y a aucun pathos dans cette pièce. Il n'y a aucun jugement. Juste des faits. Et puis, on ne va pas en faire un fromage. Hein, c'est la vie. Il y a ça. Et je trouve ça admirable et c'est ça que j'avais envie de retranscrire dans cette pièce. Et pour moi, c'est une pièce d'amour. Voilà, une pièce d'amour pour ces femmes. Ce n'est pas une pièce militante. Ce sont des faits, ce sont leurs vies. On leur a peu donné la parole. Après, c'était bon, bah voilà, c'est passé, on n'en parle plus. Bah si, on en parle parce que c'était important et ça leur a fait toute leur vie.
Un hommage au courage de ces femmes qui avaient l'habitude, parce que c'est une injonction aussi, de souffrir en silence. Tout le monde prenait sur lui à l'époque, mais les femmes d'autant plus par rapport à toutes les responsabilités supplémentaires qu'elles devaient assumer. Et par conséquent, en racontant cette histoire intime finalement et familiale, et vous touchez à l'universel dans ce spectacle Gardienne, joué jusqu'au 31 juillet à 13h25 au théâtre des Trois Soleils. Donc je ne vous demanderai pas quels ont été les retours du public parce que vous en avez déjà donné un écho. Et donc, on y retrouvera, qui sait, une maman, une tante, une cousine. Allez donc savoir, ou peut-être une descendante, en espérant qu'elle ait moins de galères à affronter dans sa vie future que celles qui nous ont précédées. Merci Fanny Cabon d'être venue nous parler de ce spectacle et de ce texte.
Merci à vous.
Et puis à bientôt sur Osmose Radio.